Daniel, j'aimerais que tu te présentes et qui es-tu en tant qu'artiste, mais aussi en tant que personne.
C'est difficile de diviser l'artiste et la personne. En tant que personne, ben, je suis une fille de la campagne et de la ville. J'ai toujours eu une espèce de lien avec les deux, mais pas d'appartenance ni à un ni à l'autre. Ça a toujours été ambivalent, je devrais dire. Mais je suis une personne qui travaille aussi beaucoup seule. Je suis amie avec tout le monde, mais je travaille pas je travaille en groupe, mais pas avec des gangs. Fait que si il y a quelque chose qui se passe quelque part, je vais travailler là. Si ça se passe ailleurs, je vais faire ça. Fait que je suis beaucoup dans l'organisation, puis j'aime beaucoup partager et faire des choses avec les autres. Donc, je pense que c'est comme ça que j'ai développé mon côté organisateur. S'il y avait quelque chose que je voulais apprendre, que je ne connaissais pas, bien, je l'enseignais. Et puis, j'ai commencé ça à 8 ans. Puis, les gens, ils me croyaient, puis ils me suivaient. Puis, ça développait des projets, toutes sortes de choses. J'ai enseigné plein de choses. Fait que j'étais très créative dès mon jeune âge, mais avec un entourage. Fait que ça, c'est mon couteau personnel, spectacle, j'étais vêtements, j'aime beaucoup la mode, j'étais dessinatrice de mode, mais c'était tout parce qu'il y avait un besoin, à remplir, donc je devenais cette personne-là, à ce moment-là, la dessinatrice de mode, pour me faire du linge, pour être capable de sortir avec mon mari, qui m'amenait toujours dans des grands restaurants, des gros événements, des ambassades, etc., etc., etc. Fait que je faisais ça. La danse, ça a été mon premier amour. Et puis, j'aime beaucoup le mouvement, faire bouger les autres, c'est ça. Puis ma famille aussi, c'est très important dans ma vie. J'en parle jamais dans ma carrière. J'essaie d'avoir une vie privée, très privée. Je ne mets jamais de photos ou d'informations sur ma famille parce que ça m'appartient. Mes petits-enfants, c'est tous des artistes. Ma fille, c'est une chanteuse d'opéra aussi. Mon fils, c'est un mécanicien, un machiniste, un inventeur de toutes sortes de choses et chasseur. Chasseur, il aime beaucoup la nature. Donc, en quelque part, tout le monde a hérité un peu de mes passions. J'ai participé à beaucoup de résidences à Tremblant avec des 20 femmes artistes au cours des dernières, avant la pandémie, fait que en 2010. Puis ça m'a amenée à faire des résidences aux États-Unis aussi. Puis c'est là que j'ai vu que le lieu où on crée est proportionnel à l'œuvre que l'on crée, donc la grosseur des œuvres. Puis il y avait quelqu'un d'autre qui a dit ça à un moment donné dans une conférence, puis ça a fait un déclic qui a fait que je suis devenue la première présidente des ateliers du Ruisseau. Parce qu'il y a un besoin, il y avait un besoin, fait que là j'ai identifié un besoin, oui j'ai besoin d'un atelier, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un atelier? Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec les artistes pour développer cette communauté-là où on va travailler ensemble puis on va s'élever ensemble. Créer ensemble, ça crée une énergie qui n'est pas là quand on crée seul. Mon côté artistique, si je l'écoute pas ou si je le fais pas, ben ça l'affecte toute ma vie parce que je deviens maussade, mauvaise humeur. C'est vraiment une façon de vivre puis de s'exprimer. Fait que mon premier langage expressif en créativité, c'était la danse. Fait que le mouvement était très, très important, le déplacement dans l'espace, la musique, tout ce qui entourait la créativité de la danse. J'étais une meilleure chorégraphe que danseuse et j'aimais inventer des histoires. Mais c'était comme... moi, j'étais hyperactive et je fais du déficit d'attention. Fait que je dessinais tout le temps à l'école. C'est comme ça que j'ai passé ma 12e année. Puis après, j'ai pris des cours, mais j'avais les deux parallèlement. Fait que j'ai juste fait un changement. Puis j'ai continué à étudier en art visuel quand j'étais habillée à Montréal. J'avais 18 ans. Quand j'ai commencé à prendre des cours, je ne connaissais pas Van Gogh, je ne connaissais pas l'histoire de l'art, je ne connaissais rien, rien, rien. Mais comme c'est ma personnalité d'avancer malgré tout, parce que c'était un besoin, ben je me suis lancée là-dedans. Puis... J'ai étudié toute ma vie. J'ai jamais arrêté. La mode, oui, j'étais dessinatrice de mode. J'avais, à un moment donné, il y avait une dame qui faisait des parades de mode. Ça s'appelait The Bridal Fair. J'étais à Ottawa dans ce temps-là. Et elle m'avait invitée avant un kiosque. Mais les kiosques, dans ce temps-là, c'était comme 2000 $ pour 2 jours. Fait que j'avais pas d'argent. Fait que j'ai dit, j'ai pas d'argent, je peux pas faire ça. Fait que j'avais un magasin. Alors, elle m'a rappelé 2 jours plus tard, puis elle m'a dit, si tu me fais des robes de soirée pour l'événement, on va te donner un kiosque. Puis si tu me fais des robes de mariée qu'on adore, on va s'en kiosque, puis on va donner des places dans la parade de mode. Fait que j'avais 2 places. Fait que sur 800 robes de mariée qui se promenaient, j'avais juste 2 places pour le faire. Comme on avait 2 places, il fallait se faire remarquer. Alors, j'ai fait un ensemble pantalon avec un boléro. Puis la jupe, on a eu tout le monde s'est levé pour applaudir. Personne n'en revenait. Les étapes artistiques dans mon cheminement. Ben, c'est beaucoup comme ça aussi que ça se passait. Quand il y a une occasion qui se présentait, quelqu'un venait me chercher puis disait « OK, comme l'enseignement ». Donc, moi, à l'école, j'étais pourrie. J'ai pris des cours après, puis j'avais des moyennes assez élevées, très élevées même en art, mais à l'école, pour enseigner, je pensais jamais. J'étais la dernière personne que quelqu'un aurait dit « Ah, Danielle, elle va être enseignante. » Jamais de la vie. J'ai acheté un livre avec des méthodes, puis j'ai appliqué ces méthodes-là, comment dessiner avec le côté droit du cerveau, qui était très, très efficace. Puis je faisais toujours les exercices avant de les montrer. Puis mes étudiants, ils étaient magnifiques. Ils réussissaient tellement bien. Puis tout ce que je faisais, c'était leur donner la confiance de le faire. Fait que vraiment, d'enseigner, c'est vraiment ça, de pousser quelqu'un à faire quelque chose qu'il a peur de faire. C'est ce que j'ai réalisé. Donc, 23 ans plus tard, j'ai enseigné le dessin, j'ai enseigné l'aquarelle pendant longtemps. Maintenant, j'enseigne l'abstrait et je professionnalise les artistes.
Alors, maintenant, je veux te montrer quelques phrases qui parlent de la résistance à travers de l'art, de la croissance personnelle et du syndrome de l'imposteur. Et j'aimerais que tu me dises laquelle d'entre toutes les phrases que je te montre, laquelle résonne la plus avec toi et pourquoi.
Plus on réussit, plus on doute. Le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, tout le monde l'a. Je pense que tout le monde l'a parce qu'on a... Surtout les artistes en art visuel, il faut qu'ils se donnent... c'est difficile d'avoir de la valeur, de se donner de la valeur. Parce que si on explore, on a souvent... Souvent, on arrive à un point où c'est ça, puis on n'a pas rien pour l'évaluer ou c'est vraiment aléatoire. On pense à d'autres choses, on essaie notre exploration. Fait qu'est-ce qui m'intéresse le plus, c'est... Le processus. J'ai commencé à m'intéresser aux artistes qui, des acteurs, une danseuse contemporaine, différentes personnes, puis comme Martha Graham, je ramène souvent ça à mes étudiants, qui disait à un de ses étudiants qu'il faut garder le canal ouvert. Il ne faut pas se comparer avec personne, il faut vraiment s'intéresser à ce qu'on fait nous. Et puis, il y a une vitalité, une force de vie qui est en chacun et qui est unique. Et puis, si on la bloque, elle ne sera pas là. Parce qu'il y a juste une personne comme nous, dans le temps, à travers les années, les siècles, etc. Il y en a juste une qui a le même bagage que nous. C'est comme s'il y a un ADN, à part quelques exceptions. Puis, il y en a un autre aussi, un autre artiste, Rick Rubin. Et puis lui, il fait de la musique, puis il a travaillé avec Paul McCartney, je pense qu'il était éditeur, je ne me souviens pas trop, mais il y a aussi des bonnes façons de penser, comment vraiment pas peindre ou créer dans le but d'avoir un produit vendable. Parce qu'on bloque vraiment notre créativité à refaire toujours les mêmes choses, à ne pas essayer, à ne pas se lancer. On évolue. Et puis, les preuves de ça, c'est que souvent, moi, je fais beaucoup de modèles vivants. Et puis, quand on finit au mois de juin, d'habitude à fin de juin, puis on recommence au mois de septembre. Puis des fois, je suis dans une lancée où ça va bien, j'ai quelque chose qui est en train de sortir, puis soit que je regarde la lumière, ou il y a comme un déclic qui se fait, puis là, on arrête, puis quand on recommence au mois de septembre, j'ai beau réessayer de refaire la même chose, je ne suis pas capable. C'est fini, le moment est passé, on passe à d'autres choses. C'est le temps de continuer d'évoluer. L'évolution, elle arrête au mois de juin, puis elle recommence quand on recommence, mais elle a évolué, donc elle ne peut pas être la même chose. Donc, on fait beaucoup d'évitements. En tout cas, moi, je fais beaucoup d'évitements. J'organise beaucoup de choses pour les autres. Des portes ouvertes, des visites guidées. On prend toutes sortes de détours pour ne pas se faire face à nous autres mêmes, à nous-mêmes. Parce que, veux pas, quand on est devant une toile blanche, on est devant nous-mêmes. Puis, j'ai déjà donné une entrevue en radiophonique à quelqu'un qui ne comprenait pas ça, de ne pas avoir un plan d'avance, de ne pas savoir où je m'en allais dans mes choses. Mais c'est ça le défi. Le défi, c'est de faire quelque chose puis de se laisser, en tout cas, moi, c'est ma démarche, commencer à faire quelque chose pour voir ce que ça fait, puis après ça, continuer avec ça. C'est d'essayer d'ouvrir le canal assez pour rentrer dans sa bulle puis être capable de créer quelque chose qui est un grand risque, dans le fond, mais c'est de prendre ça. Ça prend beaucoup de courage pour être un artiste parce qu'on se remet toujours en question, puis on se remet à question par rapport à nos œuvres et dans nos œuvres. Puis souvent, c'est comme il y a quelqu'un qui a dit aussi ça, c'est comme demander une question, faire une œuvre d'art.
Si tu devais donner un seul mot comme conseil à une autre personne artiste ou un cheminement créatif, quel serait-il?
Le conseil que je donnerais, ce serait d'être authentique, de rester soi-même, de faire face à la peur. C'est ça à quoi on fait face, c'est la peur. Donc, ça prend du courage pour être un artiste. Et puis, pour devenir un artiste professionnel, ça prend de la résilience. Parce que, comme Martha Graham a dit, il n'y a jamais de satisfaction. Il y a juste une marche bénie qui nous fait avancer plus que les autres.